Bonjour David, bonjour à tous. Le collège de Mazy-en-Gâtine sur la sellette. Il pourrait en effet disparaître dans le cadre du plan collège 2050 du conseil départemental. Réaction dans un instant du maire. Les vœux de l'hôpital Nord de Sèvres hier. La priorité demeure le recrutement des personnels médicaux et paramédicaux. La chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine a lancé une grande enquête auprès de ses adhérents en fin d'année dernière. Plusieurs enseignements sont à y tirer. La 73e foire expo de Bressuire, ce thème de la Louisiane dans les starting blocks. Elle aura lieu du 24 au 27 mars avec en nouveauté un concert le samedi soir au lieu du traditionnel dîner spectacle. Et puis dans l'activité sportive, gros plan sur la compétition de patinage artistique proposée par Niort Glass le week-end à venir. Quant à la météo, des nuages et du froid, c'est le programme de notre après-midi. Le collège de Mazy-en-Gâtine menacé de fermeture à l'horizon 2026-2027 dans le cadre du plan collège 2050 qui doit aboutir à un certain nombre de décisions radicales. Après Raymond Nigaud de l'APSI qui devrait fermer à la rentrée 2024, le collège Roger Tabot de Mazières qui compte 250 élèves actuellement semble donc également faire les frais des décisions du département qui a cette compétence liée au collège. Réaction, celle du maire de Mazy-en-Gâtine, Jacques Fradin.
C'est une déception de perdre le collège hein, pour tout le monde. C'est surtout, faut penser aux enfants et aux parents, mais c'est pas nous qui sommes maîtres du jeu. De toute façon, nous avons un collège du type Payron, donc ces collèges-là auraient déjà dû être supprimés ou reconstruits, en tout cas, sur place. Secondigny est dans le même cas, donc je pense que nous étions en concurrence et que, voilà, il y a eu un choix qui a été fait. On a le restaurant scolaire du primaire qui est au collège. Donc là aussi, il y a une réflexion aussi importante à avoir. Moi, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est d'être sûr qu'au moins derrière, il n'y ait pas une friche, comme on a connu dans le sud du département, parce que nous, communes, on ne peut pas supporter ces choses-là. Et secondo, il faut se dire que ce collège n'impacte pas que Mazières, puisque là, c'est bien tout un territoire qui est impacté, hein, les communes autour. Il faudrait être vigilant.
La totalité du plan collège 2050 sera dévoilée lors d'une séance publique du conseil départemental le vendredi 3 février prochain. Il sera ensuite soumis au vote des élus. Pôle emploi a communiqué hier les chiffres du chômage dans notre département lors du quatrième trimestre 2022. On apprend ainsi que le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit en moyenne sur le trimestre à 10 840, un chiffre en baisse de 8% sur un trimestre, soit moins 950 personnes et de 12% sur un an. Cérémonie de vœux à l'hôpital Nord de Sèvres en fin de matinée hier. Un rendez-vous qui permet de faire un bilan de l'année écoulée, de se tourner vers 2023 dans un contexte délicat, celui d'une crise de la démographie médicale et paramédicale à laquelle sont confrontés tous les établissements de France. Un contexte qui n'est pas nouveau pour le centre hospitalier Nord de Sèvres. La priorité reste donc le recrutement, comme l'a souligné hier le directeur de l'établissement Bruno Fauconnier.
C'est la problématique numéro un, parce que recruter, c'est pouvoir réouvrir les services, c'est pouvoir mener nos projets à bien. Sur certains projets, nous arrivons à recruter. J'ai parlé du centre public de santé de Parthenay où nous sommes en train de recruter d'autres praticiens, ce qui prouve que nous parvenons toujours à recruter. Mais il nous faut aussi pouvoir recruter des infirmiers. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir mener à bien nos projets. Donc, on est vraiment mobilisés sur cet objectif.
Le centre hospitalier Nord de Sèvres aura connu en 2022 une activité fortement marquée par la crise sanitaire. Les passages aux urgences ont augmenté de 1,3% par rapport à 2021. Pour se chiffrer à 28 261 l'an passé. Avec 738 naissances, la maternité reste dans une trajectoire ascendante depuis 5-6 ans. Le déficit, lui, devrait être maîtrisé grâce au soutien de l'ARS qui accompagne aussi l'hôpital dans ses différents projets.
On a un magnifique projet à Thouars, 25 millions d'euros pour la reconstruction de la psychiatrie et nous avons le plan de financement qui a été confirmé par l'Agence régionale de santé qui nous soutient de façon extraordinaire. Je tiens vraiment à les remercier. Par ailleurs, on a ce projet de relocalisation, de reconstruction des pas des orangers à Parthenay. Là, il nous faudra emprunter. Le plan de financement n'est pas tout à fait bouclé, mais les choses sont en bonne voie. Ce sont des très beaux projets, et malgré les difficultés que l'on traverse, eh bien, ces projets, on arrive à les mener, à les dérouler. Et 2023 va être déterminant sur ces quatre projets. On va basculer dans la phase de réalisation en fin d'année.
Quatre projets, car il faut y ajouter le bâtiment administratif à Fellabaisse et la construction à Bressuire du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Emmanuel Ménard, présente hier matin en tant que présidente du conseil de surveillance, a souligné que l'on pouvait compter sur elle pour accélérer l'obtention du permis de construire de ce centre. Elle a aussi et surtout tout encourager les équipes, se voulant optimistes pour l'avenir.
Oui, c'est un message de soutien et d'optimisme. On espère même pour 2023 réouvrir des lits parce que des médecins ont été recrutés. J'en parlais à l'instant avec en aparté avec un médecin au niveau de la maternité et qui me disait que voilà, il voyait des collègues arriver. Donc forcément, c'est plutôt bon signe pour l'avenir.
Les vœux de l'hôpital qui se sont d'ailleurs poursuivis dans l'après-midi d'hier à Mauléon, ce qui a été l'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux de l'EHPAD La Châtillonnaise. Nous y reviendrons plus longuement dans l'édition de 18h. En fin d'année dernière, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine lançait une grande enquête de conjoncture auprès de ses adhérents. Et il en ressort qu'un peu plus de la moitié des dirigeants d'entreprises artisanales de la grande région abordaient 2023 avec confiance. Le secteur alimentaire est élu plus pessimiste, avec seulement 41% de confiance sur l'avenir de leur entreprise. Mais tous se retrouvent autour d'un défi, maintenir et développer leur clientèle dans un contexte inflationniste actuel. Gérard Gomez, le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.
Dans cette période d'inflation, les gens viennent plutôt aller chercher de la facilité, on va dire comme ça, et puis nous, il faut qu'on garde des coûts raisonnables, donc on ne peut pas répercuter forcément tous les coûts d'inflation sur le prix de vente ou prix de vente. C'est aussi une préoccupation majeure des artisans aujourd'hui, parce que évidemment, mettre la baguette à 3 €, ça serait facile, mais c'est inconcevable, tout simplement, aujourd'hui. Donc, c'est aussi comment arriver à maintenir cette clientèle qui est en perte de pouvoir d'achat, d'une façon générale.
Autre enseignement à tirer de cette vaste enquête, plus de 66% des artisans néo-aquitains se disent en situation de fragilité financière, dont 38% en situation critique pour la survie de leur entreprise, des dirigeants qu'il faut donc accompagner. Gérard Gomez.
Nous avons réactivé aussi les cellules d'aide psychologique par le biais de l'association APESA dans tous les départements. J'ai demandé à tous mes collègues artisans, présidents, d'être présents en tout cas sur tous les départements. On ne ménage pas nos efforts. On passe nos jours, nos nuits, nos week-ends pour essayer de répondre à tout le monde et pour essayer de pouvoir accompagner le plus de monde possible parce qu'on est vraiment dans des situations qui peuvent être parfois très inquiétantes.
On constate en effet une augmentation sensible du nombre de radiations d'entreprise, plus 17% en 2022 par rapport à l'année précédente. Cette tendance est observée depuis le début 2021, mais elle s'est accélérée en 2022. Mardi prochain, vous le savez, sera une nouvelle grande journée d'action contre la réforme des retraites. Et comme jeudi dernier, des manifestations sont prévues à Niort, Bressuire, Parthenay et Thouars, où l'intersyndicale se mobilisera dès ce jeudi pour de l'affichage et du tractage sur les principaux ronds-points de la ville à partir de 17h. Bressuire-Bocage Animation prépare sa foire expo qui aura lieu du 24 au 27 mars à Bocapaule. Une 73e édition pour laquelle les organisateurs espèrent accueillir entre 12 et 15 000 visiteurs. C'est le thème de la Louisiane qui a été retenu pour cette édition 2023. Jacques Rambeau, le président de BBA Bressuire-Bocage Animation.
Je crois que la foire de Bressuire, c'est incontournable. La foire de Bressuire, c'est de faire tourner tout ce qui est économique. Il y a la partie commerciale, la partie agricole traditionnelle, et puis il y a l'animation permanente. Je crois que le public, il faut aller chercher avec l'animation. L'animation se fera donc avec la Louisiane cette année, mais avec plein de groupes, puisqu'il y aura 15 artistes en permanence qui vont sillonner la foire de Bressuire, plus après une grande nouveauté, c'est la première depuis 27 ans, on fera le samedi soir le concert de Jean-Baptiste Guégan. Ça va être une nouveauté, on verra ce que ça va donner, et si ça marche bien, on perdurera dans cette direction-là.
Savoir se renouveler, c'est essentiel pour une foire qui va chercher ses origines pourtant très loin et très ancrée dans la tradition, parfois immuable. Ainsi, elle a toujours lieu 15 jours avant Pâques et elle s'appuie également toujours sur le bénévolat, comme le souligne un autre pilier de BBA, Francis Paulet.
BBA, c'est 150 bénévoles. Il y a une petite équipe, évidemment, à la direction, qui, évidemment, est obligée de réfléchir à l'évolution de la foire. Et on se devait de dépoussiérer un petit peu l'habitude qu'on en avait pour faire toujours la même ritournelle en s'en contentant. Sauf que tout évolue, les foires évoluent, et la distraction dans des événements comme ça, c'est au moins 30% de l'intérêt pour faire venir et faire déplacer les gens.
Et en tout cas, les exposants, ils seront au rendez-vous, ça c'est sûr.
Effectivement, parce que le gros problème qu'on a vu là en 2022, s'il y avait des problèmes des exposants, des problèmes des visiteurs, mais cette année, on ressent pas ce problème-là. Apparemment, les exposants sont au rendez-vous. Donc, tant mieux. Pour nous, c'est une confiance renouvelée, puis c'est un encouragement. Il ne faut pas l'oublier, parce que sans exposants, il n'y a pas de foire.
La foire expo de Bressuire, ce sera donc du 24 au 27 mars sur le thème de la Louisiane. Foire expo avec, bien entendu, sa foire commerciale, sa foire agricole et sa fête foraine. Le dîner-spectacle du samedi soir sera donc remplacé par le concert de Jean-Baptiste Guégan, concert pour lequel les billets sont disponibles sur Ticketnet. Thomas Senko se produira en concert ce soir au Théâtre de Bressuire. Ce jeune prodige du piano a déjà 7 albums à son actif et a remporté de nombreux prix, dont la victoire révélation jazz de l'année lors des victoires de la musique en 2013. Sachez qu'avant de se produire sur scène ce soir à 20h30, une rencontre avec le musicien est programmée à 18h, toujours au théâtre. L'actualité sportive en handball hier soir à La Clameur, 2 semaines après avoir été battue par Brest. Les Celloises se devaient de réagir, d'autant plus qu'une semaine plus tôt, elles avaient été battues à Saint-Amand-les-Eaux. Ce ne fut malheureusement pas le cas, puisque les deux Sévriennes se sont une nouvelle fois inclinées lors de la réception de Dijon hier soir, 29 à 36. Cholet Basket affrontera Le Mans en quart de finale de la Leaders Cup le 17 février prochain. En cas de victoire, CB affronterait en demi soit Boulogne-le-Valois ou l'Asvel. New York Glass prépare sa compétition annuelle de patinage artistique. Le Trophée de l'Angélique, samedi toute la journée et dimanche de 8 à 13 heures, va réunir les clubs du Grand Ouest. Anaïs Marqueteau, membre du bureau, pleinement mobilisé sur l'événement.
On va avoir plusieurs clubs qui viennent en fait du Grand Ouest de la France. Donc ils vont venir en fait présenter leur programme sur la glace devant un panel de jury. Il va y avoir différentes catégories, donc ça va vraiment du débutant en passant par le régional et qui va jusqu'au national.
Votre club, comment on peut le présenter ?
Alors, Norglas, ça fait 10 ans cette année du coup que le club existe. C'était suite à la fusion de Patiglas et de la NSG. Norglas, c'est le plus grand club du coup de la Ligue Ouest, presque 200 adhérents, donc ce qui est plutôt pas mal. Il va y avoir, on a également une section curling qui va ouvrir début mars. Donc c'est la seule par rapport à la région Ouest. Et il y a également une section freestyle qui a ouvert l'année dernière en fin d'année. Mais la compétition Trophée de l'Angélique, c'est vraiment donc du patinage artistique.
Le Trophée de l'Angélique, c'est donc le week-end prochain à la patinoire de Niort. Entrée gratuite. Reportage signé Fabien Gazeau. Au chapitre des faits divers, un dramatique accident s'est produit mardi soir à Saint-Aubin-du-Plain pour une raison inconnue. Vers 23h30, un homme de 46 ans demeurant dans l'Argentonné a perdu le contrôle de sa voiture avant de violemment percuter un arbre. Seul à bord du véhicule, il a été évacué dans un état critique vers le centre hospitalier Nord de Sèvres où il devait malheureusement décéder des suites de ses blessures.